8h20. Journal de 8h, Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous. Propos sexistes, gestes déplacés, agressions et une hiérarchie qui a parfois du mal à entendre. Les rédactions et les écoles de journalisme n'échappent pas au phénomène. Publication ce matin d'une étude lancée juste après les révélations autour de la Ligue du LOL. Et à quelques heures de la Journée internationale des droits des femmes, gros plan ce matin sur la question des salaires des femmes et des hommes dans les entreprises françaises. À 8h20, Nicolas, les fractures française avec votre invité, il signe l'archipel français.
Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, ce livre, effectivement, l'archipel français aux éditions du Seuil, va sans doute susciter le débat. On voit ça avec lui, il est l'invité du grand entretien de la matinale. 01 45 24 7000 pour vos questions.
Au sommaire ce matin, la France qui se robotise, Donald Trump qui fait disparaître ses bulletins scolaires, des milliers d'Africains restés en Russie après la Coupe du Monde et qui méritent d'être expulsés, et le PSG qui craque au parc.
France Inter.
Il y a 4 semaines éclatait l'affaire de la Ligue du LOL. Ces jeunes communicants ou journalistes, petites vedettes des réseaux sociaux il y a quelques années, qui avaient cyberharcelé des confrères et surtout des consoeurs. Dans la foulée, les témoignages se sont multipliés dans les rédactions et dans les écoles de journalisme. Alors 3 associations de femmes journalistes ont lancé une enquête sur Internet pour appeler à témoigner anonymement dans les rédactions et dans les écoles de journalisme. Et ce matin, on découvre les conclusions de cet appel à témoins. Plus de 1800 personnes y ont répondu et plus de 200 médias sont concernés, Jacqueline Pétrose.
Objectif de cette enquête, mesurer l'ampleur du phénomène, voir si le harcèlement ou le sexisme que de nombreux reportages dénoncent chez les autres existe et à quelle échelle dans les rédactions. Le constat est clair, 67% des personnes ayant répondu disent avoir été victimes de propos sexistes, 13% d'agressions sexuelles, 2 personnes ont même déclaré avoir été victimes de viol. Autre constat, la réticence des hiérarchie à entendre les victimes. Agathe Rank, journaliste et membre de Prenons la Une.
Ce qu'on a vu, c'est vraiment le dysfonctionnement dans la remontée d'informations. C'est-à-dire que dans 83% des cas, lorsqu'une personne nous a dit avoir été victime de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, elle n'en a pas parlé. Et encore plus frappant, lorsque les victimes osent en parler, dans 66% des cas, il n'y a rien, il n'y a pas de procédure qui est lancée, il ne se passe rien.
L'enquête est close. Pour Agathe Rank, elle va servir à alerter.
Maintenant, l'étape, c'est vraiment d'interpeller les rédactions pour leur rappeler leurs obligations, parce que les rédactions, c'est des entreprises, et en fait, elles ont l'obligation légale de protéger leurs salariés. Ça va être aussi de pousser les rédactions à mettre en place des processus clairs, en fait, pour que les victimes sachent vers qui se tourner et sachent qu'elles seront écoutées.
Certes, cette enquête ne représente que la réalité de ces témoignages anonymes, mais elle montre que si la parole se libère, elle n'est pas encore audible par tous, même dans le domaine de la communication.
Une étude lancée par 3 associations, noustoutes.org, Prenons la Une et Paye ton journal. Hier, on apprenait que 8 femmes avaient porté plainte contre un journaliste du Monde. Il leur aurait envoyé des photos de lui très intimes. Il a été suspendu par sa direction le temps de l'enquête. La presse, la politique, la publicité, aucun secteur n'est épargné par les propos déplacés. Nantes Métropole demande donc le retrait de ses publicités pour des jeans avec le slogan « Liberté, égalité, beau fessier ». Les affiches devraient avoir disparu d'ici ce soir dans l'agglomération nantaise.
Et dans ce contexte, Frédéric, comment se porte l'égalité salariale dans les entreprises françaises?
Les sociétés de plus de 1000 salariés avaient jusqu'au 1er mars pour s'auto-évaluer à partir de critères très concrets, comme l'écart des rémunérations entre femmes et hommes, l'écart entre les augmentations annuelles et la proportion de femmes parmi les plus gros salaires. En dessous de notes de 75 sur 100, les entreprises risquent une amende. Les résultats sont à retrouver en détail sur franceinter.fr. Et ce matin, Maxime Deps, vous nous révélez les bons et les moins bons élèves.
On aurait pu penser qu'une société comme Heineken, qui véhicule une image assez masculine, serait arrangée parmi les mauvais élèves. Eh bien non, le leader de la bière en France réussit le test avec 98 points récoltés sur 100. Ça passe au rang des surprises également pour Total avec un résultat de 80. Un peu plus ric-rac, 26 s'en sort aussi. De même que la SNCF qui a un peu plus tardé que les autres à publier ses résultats et qui reconnaît, c'est vrai, devoir en faire un peu plus pour que davantage de femmes soient citées parmi les plus hauts salaires de l'entreprise. Mais derrière, ou plutôt tout devant, les notes allant jusqu'à 99 points obtenues par des sociétés comme Sodexo interrogent. Pour les syndicats, il y a là le signe que les critères choisis par le gouvernement pour noter les entreprises manquent de précision. La CGT pointe notamment du doigt la filière hygiène et propreté du groupe qui emploie beaucoup de femmes et souvent sous un statut précaire.
Et demain 8 mars se déroule la Journée internationale des droits des femmes. Le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi souhaite être candidat au municipal à Paris pour La République en marche. Il se déclare dans une interview au Parisien ce matin. Son collègue Benjamin Griveaux devrait se lancer dans les jours qui viennent. Un nouveau maire pour Bordeaux, Nicolas Florian, qui est de droite, LR, va succéder à Alain Juppé aujourd'hui. Le verdict dans le procès Nemouche est attendu dans la matinée à Bruxelles, comme le prévoit la loi belge. Le verdict sera rendu aujourd'hui et la peine éventuelle prononcée demain. Nemouche, djihadiste français rentré de Syrie, est le principal accusé dans la tuerie du musée juif de la capitale belge. C'était il y a 5 ans. 4 personnes étaient mortes assassinées. Le cardinal Philippe Barbarin saura aujourd'hui s'il est condamné ou non pour non-dénonciation de crimes pédophiles, ceux commis par le père Prénat dans les années 80. Jugement dans moins d'une heure et demie au tribunal correctionnel de Lyon. Au procès, la procureure n'avait requis aucune peine contre le cardinal et ses 5 co-prévenus. Une condamnation, ce n'est même plus l'essentiel d'ailleurs, estime Germain Thiel, porte-parole de l'association La Parole Libérée.
On a déjà pour nous une victoire, c'est celle de l'opinion publique et que les gens se soient appropriés ce sujet pour peut-être plus prendre conscience de l'ampleur du problème, hein, que ce soit dans l'église ou ailleurs. Donc le combat pour nous est déjà gagné, donc peu importe. On prendra acte de ce qui sera dit et puis en tout cas je pense que le plus gros du travail est fait pour que l'opinion publique, justement, se soit remise en question sur ce sujet. Je pense que toutes ces révélations qui sortent un peu partout, ça vient du fait que cette parole, elle a peut-être plus peur maintenant, grâce à toutes ces actions, de se libérer et de faire évoluer les choses. Donc on est déjà satisfait de ça, pour le bien de beaucoup de gens, en fait, tout simplement. Si notre action a pu faire avancer d'autres personnes, bah c'est tant mieux.
Germain Thiel de l'association La Parole Libérée avec Christophe Vincent à Lyon pour France Inter. Le groupe Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, condamné pour procédure abusive. Vivendi accusait le journaliste Nicolas Vescovacci de dénigrement, de harcèlement et d'un manque d'objectivité dans son livre Vincent Tout-Puissant, coécrit avec Jean-Pierre Canèche et Jean-Claude Lattès. Mais la justice estime au contraire que Vivendi a surréagi et la condamne à verser 11 000 euros, dont 8 000 euros de dommages et intérêts aux journalistes. Nos confrères de l'agence de presse Reuters sont en grève toute la journée, une première depuis 15 ans. Reuters prévoit de supprimer 25 postes, soit un tiers de ses effectifs en France. Elle prévoit aussi de traduire automatiquement par logiciel les dépêches écrites en anglais. Un travail effectué jusqu'ici par des journalistes, par des hommes.
Et justement, Frédéric, les états généraux de la robotique s'ouvrent à Lyon aujourd'hui.
Quels enjeux pour la robotique et l'intelligence artificielle ? Quel impact sur les entreprises et sur l'emploi des humains ? La France, longtemps à la traîne sur la robotisation, est en train de rattraper un peu son retard. Et les chiffres le prouvent, Delphine Simon. Là où il y a des robots, le chômage est moins élevé qu'en France.
40 000 robots industriels en France contre plus de 200 000 en Allemagne. Ce sont les chiffres 2018 de la Fédération internationale de la robotique. Le deuxième pays d'Europe, c'est la Suède. Le nombre de robots pour 10 000 ouvriers en France est de 132, en Suède de 223 et au Japon plus de 600. La France est à la traîne par rapport à ses voisins, même si l'écart tend à se réduire. Les chiffres de vente de robots décollent un peu depuis 2-3 ans. Les entreprises remplacent quand les robots sont usés, dépassés ou cassés, mais aussi ces neufs, elles s'équipent de plus en plus. L'immense majorité des robots fabriquent des voitures. Dans ce secteur, on compte à peu près autant de machines par ouvrier qu'en Allemagne. Des robots concentrés dans les grandes entreprises, l'industrie électrique, la sidérurgie et la logistique, selon le CIMOP, la Fédération patronale de la robotique. Reste un frein psychologique. La France fait partie des pays européens les plus hostiles aux robots, selon une étude de l'Institut Fondapol.
Le bras de fer économique, technologique et désormais judiciaire entre la Chine et les États-Unis. Les Américains soupçonnent Huawei d'espionnage. Eh bien, le géant du téléphone chinois contre-attaque ce matin et porte plainte contre les autorités américaines qui ont interdit aux administrations d'acheter du Huawei. Le groupe accuse aussi les États-Unis d'avoir piraté ses serveurs et volé des informations confidentielles. Les États-Unis qui ont un déficit commercial abyssal avec la Chine, malgré la guerre commerciale lancée par Donald Trump et l'augmentation des tarifs douaniers, les États-Unis ont enregistré en 2018 un déficit record de plus de 600 milliards de dollars, déficit commercial notamment avec la Chine. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Le Washington Post affirme ce matin que les bulletins de notes de Donald Trump dans une école privée militaire, que ces bulletins ont disparu à sa demande, comme s'il voulait dissimuler une scolarité médiocre. Grégory Phillips.
Donald Trump intègre cette école privée, la New York Military Academy, à l'automne 1959. Il va y passer 5 années. À l'époque, son père, Fred, pense qu'un peu de discipline fera le plus grand bien au jeune homme. Seulement, il n'y a aujourd'hui plus aucune trace du passage de Trump dans cet établissement. Le proviseur, aujourd'hui retraité, raconte au Washington Post qu'en 2011, on est donc 5 ans avant la présidentielle, des amis influents et fortunés de Donald Trump font pression sur l'école afin que les bulletins scolaires du milliardaire ne soient jamais publiés. Ils sont aujourd'hui à l'abri dans un coffre et personne ne peut les voir. Plutôt étonnant quand on se souvient qu'à la même époque, en 2011, Trump exigeait de Barack Obama qu'il dévoile ses diplômes, remettant en cause son parcours universitaire. Et plutôt étonnant de la part de quelqu'un qui ne cesse de clamer ceci. J'étais un très bon étudiant, j'étais très bon, je suis une personne très intelligente. La semaine passée, devant le Congrès, l'ex-avocat de Trump, Michael Cohen, avait reconnu que l'une de ses missions était de protéger la réputation de son client, allant parfois jusqu'à menacer certaines institutions, mais sans préciser si c'est lui qui était à l'origine ou non de la disparition de ses bulletins scolaires. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Au moins 3 personnes, dont 2 enfants, sont mortes ce matin au large de l'île grecque de Samos. Un bateau qui transportait des migrants a coulé. Ils étaient au moins 12 à bord. Eux demandent en vain l'asile en Russie. 12 000 étrangers, dont la plupart africains, restaient en Russie après la Coupe du Monde de football. La compétition est terminée depuis 9 mois et les visas temporaires ont expiré. Mais donc ces étrangers ne sont pas repartis, Claude Bruyot.
Le piège de la Fan ID est en train de se refermer sur eux. Le fameux pass délivré en guise de visa aux supporters munis de billets pour la Coupe du Monde russe l'an dernier a pu être perçu par des milliers de ressortissants, essentiellement africains, comme le moyen idéal pour espérer un monde meilleur à moindre risque. C'était sans compter sur l'intransigeance des autorités russes. Le Kremlin avait dans un premier temps prolongé la durée légale des Fan ID jusqu'à fin décembre 2018, mais la recherche des supporters devenus illégaux n'a jamais vraiment cessé. Évalué à 12 000 fin 2018, leur nombre a décru de plus de la moitié durant les 2 premiers mois de cette année et les demandes d'asile sont vouées à l'échec. En 2017, la Russie n'en a accordé qu'une 30aine au total. Ne reste plus alors pour ceux qui sont effrayés par l'expulsion et le retour au pays que la fuite ou la clandestinité. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
8h13, PSG comme perdre sur gazon. Une nouvelle fois, les Parisiens sont éliminés en 8e de finale de la Ligue des Champions de football. Battu hier soir par Manchester United, 3-1. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Frédéric.
Barcelone avait fait sa remontada il y a 2 ans. Hier soir, les Anglais ont fait leur comeback. Comeback parce que les Parisiens avaient gagné 2-0 au match aller à Manchester. Mais hier, au Parc des Princes où vous étiez, Cédric, le PSG a vécu sans doute la pire des humiliations, c'est bien simple, hein, rien n'a fonctionné.
Voilà, exactement, une grossière erreur défensive dès la 2e minute de jeu, ça plante un peu le décor. Un premier but de Manchester United, alors certes derrière il y a eu l'égalisation de Juan Bernat pour les Parisiens à la 14e, mais derrière une toile, une vraie toile du gardien italien Gianluigi Buffon. Le 2e but mancunien, 2 buts marqués d'ailleurs par le même joueur, si je vous dis Romelu Lukaku, ça vous dit quelque chose peut-être?
La France-Belgique en Coupe du Monde.
Voilà, qui avait déclaré que les Bleus ne méritait pas de passer en finale. C'est une belle revanche pour lui, vous le disiez. Hein. Rien n'a fonctionné hier soir. Derrière ce doublé, le Paris Saint-Germain qui tremble pendant 1 heure avant de craquer dans le temps additionnel. Un pénalty accordé grâce à l'assistance vidéo. C'était la première fois que l'assistance vidéo fonctionnait cette année en Ligue des Champions. Ça a donc joué un rôle décisif, cruel pour le Paris Saint-Germain. Nouvelle désillusion qui plonge ce matin le club parisien dans une situation difficile. Quel avenir pour l'entraîneur Thomas Tuchel, on sait déjà qu'il fera moins bien, et ça c'est assez incroyable, que son prédécesseur, Unai Emery, qui a été décrié pendant de longs mois, Antero Henrique, le directeur sportif, est lui aussi sur la sellette, tout comme le président Nasser El Khelaïfi. Soirée catastrophique, rien n'a été, vous le disiez, et le PSG est redevenu hier, 2 ans après la légendaire remontada, le PSG est redevenu la risée du football européen.
Hier soir, merci beaucoup Cédric Guillou. Hier soir, le FC Porto s'est aussi qualifié face à l'AS Rome.
8h15, le nouveau roman de Delphine de Vigan sort cette semaine.
Il s'appelle Les Gratitudes. Delphine de Vigan avait déjà écrit sur la souffrance au travail, sur l'emprise et sur la bipolarité. Cette fois-ci, Ilana Mor-Youssef, elle nous parle de vieillesse.
La vie est parfois si cruelle. Mishka a beau avoir été correctrice, c'est par les mots qu'elle ressent les effets invalidants de l'âge. À l'EHPAD, elle reçoit les visites de Marie, dont elle s'est beaucoup occupée dans sa jeunesse, et de Jérôme, l'orthophoniste de l'établissement. Mais que sait-on au fond de sa souffrance ? Delphine de Vigan.
On comprend assez vite dans le roman que c'est une femme qui a maîtrisé complètement le langage. Elle était correctrice. Dans le fait de vieillir, j'imagine que la perte du langage est une douleur en soi. En fait, elle ne perd pas la tête, elle est parfaitement lucide, elle reconnaît les gens, etc. Mais c'est simplement que les mots foutent le camp.
Dans le roman, chaque personnage a une dette affective ou morale envers quelqu'un d'autre. Combien de fois dans votre vie avez-vous vraiment dit merci ? Interroge l'écrivaine. Ce cycle romanesque, commencé avec les loyautés, fait penser au conte Moreau d'Éric Rohmer.
Ah, c'est super, j'adore cette comparaison. J'aime bien cette idée de cycle, oui, tout à fait. L'idée d'explorer en fait les liens invisibles qui nous relient. Je l'ai fait avec les loyautés. Maintenant les gratitudes, quelque chose comme ça qui sommeille en nous, qui n'est pas forcément explicite, qui n'est pas forcément dit et qui nous relie profondément les uns aux autres.
Delphine de Vigan envisage un troisième roman pour clore ce cycle. Il s'appellerait « Les ambitions », mais chut, elle ne veut pas en dire trop.
Les gratitudes de Delphine de Vigan, c'est publié chez Lattès.
Merci Frédéric Mettezo.